On va pouvoir passer à la table ronde, si vous voulez bien. Donc, on avait pensé d'abord poser les questions un peu plus spécifiques pour chaque intervenant. On va faire circuler le micro, du coup, au niveau du public. Et puis, on n'a qu'un micro, parce qu'on a un petit souci technique. Donc, on fera passer le micro ensuite aux professionnels. Le but, c'est que vous puissiez poser votre question directement à un professionnel. Et puis, il pourra répondre, du coup, à la question plus spécifique. Et puis après, si vous avez des questions plus générales et où les professionnels ont envie tous un peu d'apporter leur éclairage, on pourrait poser ça dans un second temps. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, au niveau du public ?
Bonjour, je m'appelle Morane Koval, je suis étudiante assistante de service social et j'avais une question pour Monsieur Joyal, excusez-moi si j'écorche votre nom. C'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les adolescents agresseurs et sur éventuellement les capacités intellectuelles et cognitives. Je me posais la question si cette baisse des capacités intellectuelles et cognitives était en lien vraiment avec le passage à l'acte ou si potentiellement c'est des ados qui ont déjà été victimes ou est-ce que ça pourrait être en lien avec un trauma qu'ils auraient vécu au préalable ou si peut-être les deux facteurs s'entremêlent aussi.
Oui, exactement. En fait, c'est une excellente question. Il y a plein de cas de figure. Ce que je vois, ce que je trouve le plus triste, c'est lorsque des ados ont des limites intellectuelles et qu'ils veulent seulement bien faire. Et puis, ils se retrouvent dans notre milieu carcéral avec des traitements qui ne sont pas adaptés. Mais il y en a aussi, effectivement, qui viennent de milieux défavorisés où les familles sont dysfonctionnelles et puis ils n'ont jamais appris à avoir des comportements privés. J'ai déjà vu des appartements où il n'y avait pas de porte pour les toilettes, beaucoup de pornographie qui est montrée à des enfants, les parents qui s'exécutent devant eux. Donc, il n'y a pas de limite. Et il peut avoir ce contexte-là. Il peut aussi avoir d'agression sexuelle, eux-mêmes avoir été abusés. Ça, c'est quelque chose qui est malheureusement très fréquent. Il peut avoir aussi une déficience intellectuelle, puis il peut avoir les trois. Mais donc, pour répondre longuement à votre question, les trois sont possibles.
Donc, on a aussi des questions qui ont été posées par les personnes en distanciel. Pour les personnes donc, qui ont représenté le parcours de développement, quelqu'un demande, dans la situation de Lucas, comment travaillez-vous la situation de parentalité ?
Alors, c'est une grande question. Comment on travaille la parentalité ? Déjà, en rencontrant ses parents, alors que ce soit le psychologue, que ce soit en l'occurrence moi, ou que ce soit aussi d'un point de vue un peu plus éducatif avec des éducateurs spécialisés qui sont aussi sur la structure. On va d'abord parler un petit peu du comportement de l'enfant, qu'est-ce que eux y voient. La question est très très large, donc je réfléchis un petit peu parce que on vous a pris une étude de cas fictive, hein, donc pour que ça puisse coordonner. Mais voilà, vraiment se focaliser sur la relation du parent de l'enfant. Qu'est-ce que le parent a à dire de son enfant en fait, de son comportement. Qu'est-ce que l'enfant peut renvoyer aussi à son parent, parce qu'on est là aussi en tant que traducteur parfois de ce que l'enfant n'arrive pas à dire ou ne peut pas dire. Voilà, on est des fois des passeurs de sens à ce niveau-là. Et puis, voilà, aussi reprendre à la maison quand l'enfant il fait des crises, quand l'enfant il tape, on repart aussi de situations réelles, de qu'est-ce qui se passe à la maison pour pouvoir ensuite adapter à là où en est l'enfant, là où en est le parent. Et voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent répondre à la question. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, c'était super intéressant. Moi, je suis étudiante en droit et j'avais une question en particulier à Monsieur Azoulay et Madame Baron. C'était, vous avez parlé justement des peines alternatives qui étaient possibles dans le cas de violences conjugales. Je voulais savoir s'il y avait en particulier justement des peines alternatives qui avaient été justement montrées, fait ses preuves par rapport à et qui avaient montré une vraie évolution de la personne qui était plutôt bien. Voilà.
Merci pour la question. Donc c'est effectivement un vaste sujet en matière de peines, sur la question des peines alternatives, puisqu'elles sont assez nombreuses. Alors, j'ai essayé justement de creuser cette question-là sur les peines alternatives qui ont fait leur preuve ou non comparativement aux peines principales. Alors, quand je parle de peines principales, je parlerai principalement, puisque c'est autour de ça que porte le débat actuellement autour de la question de l'incarcération. On a des peines alternatives qui ont fait leur preuve en sens que, alors on le voit avec tout ce qui est des mesures de suivi socio-éducatif, suivi des mesures de soins aussi, tout ce qui est des peines comme les travaux d'intérêt généraux aussi. Ce qu'on observe, c'est que le taux de récidive chez les personnes qui vont être coupées de ce type de peine, comparativement aux peines d'incarcération, c'est que le taux va être plus bas. Après, on a le problème, c'est que les peines alternatives, c'est la recherche. On n'a pas forcément beaucoup de statistiques, puisque souvent, ce qui va être compliqué, c'est que les peines vont être compilées pour toutes les infractions confondues. Alors, on a des fois des statistiques qui vont distinguer, à permettre d'opérer des distinguos entre différentes catégories d'infractions, mais spécifiquement en matière de violence conjugale. Voilà, je suis désolé, je n'ai peut-être pas la totalité de la réponse à ce sujet. Mais il y a effectivement, par contre, des peines qui présentent une efficacité sur le plan de la prévention de la récidive.
Donc ensuite, on a une question toujours en distanciel pour Monsieur Joyal. Pouvez-vous schématiquement expliquer ce qui se joue dans la construction de la personne pour que des comportements type pédophile se développent ?
Je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'on entend par la construction de la personne. Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire?
On ne sait pas, c'est quelqu'un en distanciel qui a posé la question.
On va essayer quelque chose. La construction de la personne. Il y a une chose est certaine, pour la pédophilie, il y a encore une fois des sous-types à considérer. Si vous regardez dans le DSM-5, mais aussi dans la classification internationale des maladies, la CIM-11, la pédophilie peut être ou non exclusive. Donc, la majorité des gens qui ont la pédophilie ont quand même aussi des intérêts sexuels légaux et typiques. Mais ceux qui ont la pédophilie exclusive, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas malheureusement, on travaille beaucoup là-dessus, surtout en résonance magnétique. Je suis convaincu qu'il y a des différences au niveau neurologique, voire même génétique, mais on n'est pas capable de le démontrer. Fait que il y a plusieurs facteurs qui sont plus personnels qu'environnementaux. On ne peut pas devenir comme ça pédophile, comme on ne peut pas devenir soudainement homosexuel. C'est pas... Les gens nous disent toujours qu'ils sont comme ça depuis toujours. C'est ce qui revient souvent. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que veut dire la construction d'une personne, mais on nous dit que ça a toujours été comme ça. Un peu comme lorsque je vois des clients qui ont des intérêts sexuels atypiques, comme la zoophilie, puis même le BDSM, ils rapportent toujours le même truc, c'est qu'ils ont toujours été comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Évidemment, ce n'était pas sexualisé quand ils étaient tout petits, mais c'est quelque chose qui est très intrinsèque. Mais par la suite, ce qu'on voit, nous, avec nos lignes d'écoute, ce sont des gens qui sont en détresse totale. Je parle des pédophiles. Et ils savent très bien que ça doit être l'enfer même de vivre ça. Parce que, voyons, c'est comme... ils savent très bien que c'est mauvais. Il y a plein de données pour dire que c'est très, très néfaste pour l'enfant. Mais ils sont pris avec ça. Donc, eux-mêmes cherchent de l'aide. Et puis, lorsque nous, les thérapeutes de nos lignes ouvertes, on a aussi des chat rooms. On a aussi de la thérapie individuelle à distance avec des gens qui peuvent habiter très loin de Montréal. Et puis, à chaque fois, on ne peut pas faire une transformation puis dire, ben là, maintenant, vous allez aimer les adultes. Ça ne se fait pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est toujours comme, il faut contrôler votre sexualité. Et puis, éventuellement, il y a des gens qui acceptent de prendre de la médication, surtout des antidépresseurs, pour baisser la libido. Puis il y en a d'autres qui prennent de l'antitestostérone, ce qu'on appelle la castration chimique. Mais on ne peut pas faire des thérapies de conversion comme ils tentent de faire aux États-Unis. Là, ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas c'est quoi la construction de la personne, mais si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez m'écrire puis me dire ce que vous vouliez dire. Il existe un numéro d'appel unique. Oui, c'est ça. En France, il y a un numéro qui est... on a mis en... Comme je vous disais dans ma présentation, c'est très important pour les thérapeutes français, quels qu'ils soient, de connaître ça. Il y a avec la Fédération française des CRIAV, dont je parlais tout à l'heure, un numéro qu'on appelle une hotline qui est disponible dans tous les départements de la France. Et là où les gens peuvent appeler lorsqu'ils sont en détresse, c'est chapeauté par le ministère de la Santé français et des CRIAV. Je n'ai pas le numéro, évidemment, avec moi, mais c'est facile à trouver si vous regardez CRIAV Hotline.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je me permets juste de rebondir sur ce que M. Joyal a dit. Ici, sur Caen, c'est le CRAV, le Centre Ressources Auteurs de Violences Sexuelles, qui est au centre Esquirol. Et dans les autres départements, c'est les CRIAVS. Et pour le coup, ils ont un site internet et ils ont aussi un réseau TESEAS, ça s'appelle, où du coup, vous pouvez avoir accès à tous les outils. Vous avez des formations gratuites. Ici, à Caen, elles sont gratuites. Il y a des formations pour prendre en charge des auteurs de violences sexuelles, mais aussi pour prendre en charge des victimes. Et c'est gratuit, qu'on soit étudiant ou pas d'ailleurs, mais c'est gratuit.
Merci.
Merci beaucoup, c'est très bien ça.
Bonjour, je suis assistante sociale à l'EPSM de Caen. J'ai peut-être loupé, mais vous parlez beaucoup des couples homosexuels hommes, très peu des couples homosexuels femmes. Est-ce qu'il y a des études sur les couples homosexuels femmes? Est-ce qu'il n'y a pas de violence? Est-ce que... Enfin, c'est une question.
Sur les couples homosexuels femmes, il faut regarder vraiment la revue littérature de Monsieur Friedman qui est anglo-saxonne, où pour le coup il y a vraiment toutes les recherches qu'il y a pu avoir. Après, d'un point de vue clinique, ça m'arrive régulièrement de recevoir des femmes qui sont en couple avec des femmes et où effectivement elles font part des mêmes types de violences. En fait, ce que j'ai eu un rendez-vous il n'y a pas très longtemps avec le président de SOS Hommes Battus et je m'attendais à ce que les formes de violence soient différentes et en fait pas du tout. Après, ce que lui m'a renvoyé en tout cas, c'est que les couples homosexuels se retrouvaient parfois en difficulté par rapport aux associations, etc., qui existent, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, en fait, dedans. Au même titre que les hommes qui sont victimes de violences, bah, ils ont du mal à contacter le 3919, parce que c'est une ligne d'écoute pour les femmes. Et chez SOS Hommes Battus, par exemple, ça leur est déjà arrivé d'avoir des couples lesbiens qui les appellent, parce qu'elles ne se retrouvaient pas, en fait, dans les associations, etc. Mais en tout cas, sa revue de littérature est très, très complète, anglo-saxonne, pour le coup, mais très complète.
Pour compléter donc, ce qui a été dit par Feriel, effectivement, moi je vous parlerai plutôt des représentations qui vont être associées aux couples lesbiens et aux violences dans les couples lesbiens et les implications, enfin, les conséquences que ça va avoir en termes sur leur prise en charge et quels freins aussi ça peut constituer. Parce que, aussi bien, enfin, d'ailleurs, je parlerai d'ailleurs hommes et femmes. Alors pour ça, je vous renverrai à un article très intéressant qui traite de ça, de Kevin Lavoie, au sujet des représentations des violences dans les couples homosexuels. On a effectivement donc les femmes qui sont auteurs de violences, particulièrement donc dans les couples lesbiens. Donc on a la représentation, souvent, on a une représentation des femmes lesbiennes qui va être une représentation des femmes assez masculine, qui va accentuer justement, qui va faire qu'elles vont être doublement stigmatisées déjà en tant qu'autrices de violences et aussi renvoyées à l'image, une image négative du fait qu'elles ne se comportent pas comme des femmes traditionnelles, entre guillemets. Et on a aussi, en termes de, on a aussi des freins qui sont dans les cas de violence au sein des couples homosexuels. On a aussi un grand frein à la détection, la prévention aussi, pour compléter ce qui a été tout à l'heure, avec le problème de l'outing. Lorsqu'un des conjoints ou une des conjointes violents ou violentes tente de quitter le couple pour le couple violent, on a la menace de dévoiler la menace de dévoiler l'homosexualité à l'entourage, qui peut peser sur les victimes et les maintenir dans la relation violente.
On avait une question ensuite, plutôt pour peut-être Madame Dujardin, mais qui peut concerner aussi d'autres professionnels. C'était de savoir si vous aviez des idées sur comment un peu sensibiliser sur les violences conjugales au sein des établissements, qu'ils soient privés ou publics, dans les écoles.
Au sein du CIDFF de l'Orne, on avait une chargée de mission égalité femmes-hommes, qui, elle, intervenait en prévention dans les établissements scolaires. Et donc, elle intervenait sur des sujets tels que le sexisme, le consentement, l'intimité, la différence femmes-hommes, mais aussi la ressemblance femmes-hommes. Où est-ce que j'avais noté ça ? Je cherche. Il y a différentes possibilités. Donc, j'ai évoqué déjà le sexisme, l'égalité homme-femme, le consentement. Ça peut être aussi aborder l'intimité, la puberté. Aussi, dans les écoles, il y a les protocoles phares qui sont mis en place dans la prise en charge sur le plan préventif du harcèlement scolaire. Donc, ça peut être aussi sensibiliser les enfants sur le harcèlement, pour justement sensibiliser aux problématiques de violence. Et puis, pas mal sensibiliser à l'empathie aussi, le regard de l'autre, l'intérêt pour l'autre qu'on peut avoir. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose.
Sur les actions de prévention, dans le département de l'Eure, très lointain, il y a eu des actions avec le CDFF 27, où en fait, avec le service jeunesse de la mairie d'Évreux, on a mis en place des théâtres forums auprès des lycéens, où du coup, en fait, l'équipe jouait une situation de violence, donc la violence quotidienne, avec le fameux, vous savez, le nouveau truc à la mode, la virgule. Le fait de se taper là dans la nuque, etc. Voilà, c'est un nouveau truc à la mode chez les ados. Et où du coup, en fait, les intervenants ont mimé des situations et en fait, ont débriefé avec eux justement sur les stéréotypes, les représentations, etc. Et on a fait un gros travail de prévention dans plusieurs lycées, en fait. Donc, ça peut aussi se manifester par des théâtres forums parce que c'est eux qui deviennent acteurs et ça leur permet d'intervenir aussi. La collègue, elle précise aussi, on a oublié la MPF, Maison de protection des familles de la Gendarmerie nationale, qui sont les anciennes BPDJ, Brigade délinquance prévention juvénile, qui font aussi et qui sont censées faire aussi des actions de prévention autour des violences. Il y a aussi des référents vifs, référents violences intrafamiliales, référents harcèlement, c'est plus en gendarmerie qu'en police pour le coup, où ils sont censés aussi être disponibles et intervenir sur ces questions-là et faire de la prévention auprès des élèves.
Aussi par rapport, en tout cas je vais parler dans le département de l'Orne, mais les maisons des adolescents aussi, elles peuvent intervenir dans les écoles par rapport aux violences générales, mais aussi des violences dans le couple, parce que ça arrive chez les ados. Et soit on peut les recevoir et il n'y a pas besoin d'autorisation, enfin voilà, c'est anonyme, mais il y a aussi le fait qu'ils puissent intervenir dans des forums et dans des écoles pour faire de la prévention dans les lycées et dans les collèges, ça existe aussi.
Merci. Là, on va vous poser une question. Donc, on commence avec les questions plus générales. On arrête les questions très spécifiques. Donc, il y avait une question qui a été posée sur le chat qui est « On a parlé des conséquences sur les enfants, notamment sur leur lien d'attachement. Comment prendre en charge ces enfants? Peut-on rectifier, la personne précise qu'elle ne trouvait pas de meilleur verbe, ce lien d'attachement insécure par l'intermédiaire d'une prise en charge, apaiser les conséquences de ce vécu traumatique ?»
Je veux bien essayer d'y répondre et je vais reprendre un petit peu ce que j'avais mis dans la prise en charge de Lucas. Bien évidemment, ce n'est pas les seuls moyens. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où il y a un attachement insécure, donc il y a de l'insécurité qui est là chez l'enfant, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de stress. Donc ce qui va être important, ça va être de travailler sur la sécurité. Donc on a pour cela le travail sur les enveloppes psychiques et les enveloppes physiques. Donc pour les enveloppes physiques, il peut y avoir, en tout cas au niveau de la prise en charge au niveau du CMPEA, il peut y avoir tout ce qui est en rapport avec la psychomotricité pour sécuriser la relaxation aussi qui existe. On a aussi la possibilité, nous on travaille en balnéothérapie avec les enfants un peu plus petits où on travaille avec l'eau. Parce que le rapport à la violence, entre guillemets, c'est aussi le corps, mais c'est aussi l'infraction. Donc, on va travailler aussi beaucoup, du coup, pour la sécurité, travailler avec les émotions. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que c'est être sécurisé? Qu'est-ce que c'est être bien? Qu'est-ce que c'est ne pas être bien? Qu'est-ce que c'est être, avoir peur? Voilà, on peut utiliser ces moyens-là qui existent.
Je voulais juste revenir, parce que j'avais levé la main juste avant, sur les moyens de prévention en milieu scolaire. Je m'appelle Manon Kondzak et je suis coordinatrice du van itinérant qui s'appelle le camion des femmes. Et donc c'est un dispositif mobile qui est géré par l'association Itinéraire qui est présent sur le département du Calvados. Et donc moi je travaille au sein du service du SAS, donc c'est SAAS parce qu'il y a un autre SAS et ça c'est pour tout ce qui est la maison d'arrêt. Donc, c'est pas la même chose. Et donc, mes collègues accompagnent et reçoivent des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et donc, en fait, moi, le van itinérant qui s'appelle Le Camion des Femmes, qui est présent sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, je fais ma pub, c'est Le Camion des Femmes 14. Bref, en gros, je fais de la prévention en milieu rural et donc je peux faire des permanences sur des places de marché, sur des lieux publics, mais aussi en milieu scolaire. Et j'aborde plein de sujets, l'égalité femmes-hommes, l'accès aux droits, l'accès à la santé, tout ce qui est vie affective et sexuelle et aussi notamment les violences conjugales. Donc ça peut être aussi un moyen de faire de la prévention dans tous les lieux possibles et c'est aussi intéressant de se pencher sur toutes les structures d'insertion et de formation parce qu'on parle beaucoup de milieu scolaire mais il y a aussi toutes les structures à côté. Voilà.
Après, il y a des outils qui existent, aucun d'entre nous les a évoqués, peut-être dans les bibliographies, mais je pense au violentomètre, au harcélotomètre, au michetomètre, qui sont accessibles sur le centre Hubertine Auclair, qui sont des outils assez intéressants. Le michetomètre, c'est pour les michetos, donc pour les plus âgés. Le michetomètre, c'est pour évaluer, en gros, si on est dans un phénomène prostitutionnel ou pas. Si en gros je donne quelque chose de mon corps contre quelque chose. Et du coup, le violentomètre, par exemple, il est en plusieurs langues, ce qui peut être pas mal quand on travaille auprès de populations migrantes qui peuvent subir parfois des violences intrafamiliales. Ils sont accessibles gratuitement sur le centre Hubertine Auclair.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit par Feriel, effectivement, ça, c'est un point qui est important à souligner. Alors, Charlotte, malheureusement, qui n'a pas pu rester pour la table ronde, donc je ne veux pas te parler en son nom, puisqu'elle est un peu plus spécialiste à ce sujet-là, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'outils clés en main et en matière de prévention, prise en charge des violences, des auteurs, comme des victimes, d'ailleurs. c'est plus, alors Christian Joyal en parlait très bien quand il parlait de l'individualisation du traitement, c'est de la même manière, on va avoir des outils qui vont être plus adaptés que d'autres selon les contextes, selon les cadres, mais aussi les profils de victimes, d'auteurs, et selon aussi les conséquences qui peuvent émaner selon le type de violence aussi.
Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une question assez spécifique. En même temps, c'est assez difficile je ne sais pas trop comment l'orienter, dans le sens où c'est quelque chose d'assez, qui est à la fois très commun et en même temps très peu étudié, j'ai l'impression. C'est le phénomène du viol conjugal, qui est quelque chose de très fréquent. Alors, on a eu quelques allusions dans les présentations, notamment sur le fait que la moitié des violences sexuelles, c'était des viols conjugaux. Enfin, c'est ça, oui. Et que dans la moitié des cas, des auteurs de violence, c'était des conjoints ou ex-conjoints. Et du coup, j'avais une question assez générale. Quelle place, comment vous intégrerez ce phénomène du coup, dans vos différentes prises en charge ou recherches parce que c'est quelque chose quand même d'assez... qui est rarement... On dit souvent, par exemple, violence sexuelle et violence physique, comme si on distinguait les deux, alors que c'est quand même quelque chose d'assez physique, il me semble. Voilà, c'était une question assez ouverte, mais je vous remercie.
Dans les deux situations, il y a effectivement la notion physique qui rentre en compte, mais après, dans le cas du viol, on est dans une effraction du corps quand même assez particulière. Ce qui est difficile, à mon sens, moi, d'un point de vue clinique, sur les prises en charge que j'ai, c'est que très souvent, la question du viol n'est pas nécessairement posée quand on va déposer plainte, et les personnes n'ont pas nécessairement conscience d'être victimes de viol, parce que le consentement dans le couple, déjà le consentement de façon générale, c'est assez compliqué, parce qu'elle m'a dit non, mais en fait elle voulait dire oui, ou elle était en train de dormir et puis elle n'a pas dit non, ou elle était alcoolisée, enfin je dis elle la victime, hein, pas la femme, d'accord. Je vais éviter les propos sexistes. Et pour le coup, la notion de consentement dans le cadre du couple, elle est vraiment très très fine, parce que finalement, il y a aussi cette notion-là de devoir conjugal, parfois d'un point de vue culturel, qui peut se mettre en lien, enfin, on a aussi tout ça, donc c'est aussi un sujet qui est particulièrement délicat à traiter. Après, d'un point de vue clinique, les victimes, parfois, c'est lourd, en fait, parce qu'elles n'ont pas conscience qu'elles ont été victimes de viol, et de dire ce mot-là, c'est presque même pire pour elles d'utiliser ce mot-là que « j'étais pas trop d'accord ». Enfin, vous voyez, d'un point de vue clinique, c'est assez particulier. Mais la notion de consentement... D'ailleurs, il y a une super vidéo, La Tasse de Thé, sur YouTube, que je vous invite à regarder, qui parle du consentement et qui est très, très bien faite, en français et en anglais, pour justement voir la limite de... je peux dire oui pour quelque chose aujourd'hui et dans 3 heures, puis être d'accord, ou pendant que ça va commencer, changer d'avis, etc. Mais pour matérialiser, d'un point de vue pénal, un viol, c'est extrêmement compliqué, parce que du coup, il faut de la menace, de la surprise, de la violence et de la contrainte. Mais un viol, c'est pas forcément tout ça. Et la contrainte, elle peut aussi être psychologique. Je pense hier à une victime que j'ai eue en visio, monsieur la viole, mais elle dit « je me laissais faire parce que sinon il me tapait dessus ». Donc je suis consentante ou je ne le suis pas. Donc c'est extrêmement, enfin voilà, d'un point de vue clinique, en tout cas, c'est très délicat.
J'aurais plus grand chose à dire parce que je pense que Ferrel a assez bien eu un propos assez complet à ce sujet. Ce que éventuellement je pourrais ajouter, c'est qu'effectivement on a la confrontation entre, d'un côté, comme ça a été dit, la conception, on va dire, sociale, mais aussi juridique des questions de consentement. Quelle représentation aussi on va avoir du viol conjugal? Alors, dans le sens de ce que Ferriel a évoqué, on a effectivement le problème des attentes qui sont l'idée de la représentation que aussi bien les victimes peuvent partager et les individus tout venant de la représentation de ce qu'on estime être le devoir conjugal. Et puis effectivement, ça c'est un point alors qui est intéressant à évoquer, puisque comme a évoqué Ferriel, on a la question de, en matière de viol, on a contrainte, violence, menace, surprise qui sont les éléments constitutifs, mais quelles sont les zones d'ombre aussi. Alors on a le débat, on le voit dans d'autres pays qui proposent pour cette raison-là une définition plus tranchée du consentement qui permettrait d'avoir plus d'éléments constitutifs à ce propos.
Moi, je voudrais un petit peu confirmer en fait les propos de mes collègues et aussi rajouter que en fait les viols conjugaux, c'est quand même une prise en charge qui est tout à fait spécifique, parce qu'effectivement en fait il y a bien bien souvent pas conscience que c'était un viol parce qu'il y a encore beaucoup, en tout cas je parle de clinique et pas de théorie, mais il y a vraiment beaucoup ce côté de ben, c'est le devoir et très très souvent en fait malheureusement le, ben, je me laissais faire parce qu'en fait sinon c'était des crises et sinon ils me laissaient pas dormir et sinon en fait le lendemain j'étais fatiguée. Donc en fait cette là, il faut d'abord qu'il y ait un accès à la, enfin, un accès au terme effectivement viol et ça, ben des fois on n'y est pas du tout et on n'y arrive pas. Donc on parle juste de l'enveloppe et du consentement sans forcément aller évoquer les violences sexuelles. Voilà.
Et si je peux encore ajouter, les personnes qui sont victimes de violences conjugales, qui peuvent subir des viols conjugaux parfois, n'ont pas besoin dans leur processus de reconstruction d'évoquer toutes les violences qu'elles ont subies. Et ce n'est pas à nous forcément d'aller le chercher. Donc je pense que ça aussi, c'est un facteur important à prendre en compte.
Alors, donc on a une question du chat qui est « Comment évoquer les violences avec les auteurs et victimes quand la culture d'appartenance les tolère davantage ?»
Moi, je vais juste parler justement de… Il existe des outils. Alors, par rapport aux enfants et aux ados, ce qu'on vous a mis dans le diaporama, les mots pour le dire, tome 1, 2, 3, guide pour les professionnels, il y a des questions, quel genre de questions on peut poser pour reconnaître ce que c'est la violence, comment en parler, quel atelier utiliser pour essayer de l'évoquer, pour que ce ne soit pas trop effractant. Donc, il existe des outils qui peuvent nous aider, notamment ceux-là, et puis il y en a très certainement d'autres, mais voilà, ça peut aider.
Alors moi, je n'ai pas d'exemple sur les violences conjugales, mais j'ai plutôt des exemples sur les violences faites aux enfants. Souvent, on va remettre finalement le contexte de la loi française, puisqu'en fait, c'est comme ça, c'est le cadre, en fait, c'est le cadre de la loi. Donc, on va quand même réévoquer en disant, bah non, en fait, là, on n'a pas le droit de frapper son enfant avec une boucle de ceinture. Ça ne se fait pas. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, il y a quand même... on en revient, tout l'accompagnement autour de la violence, de la parentalité, du couple et comment éviter que ça ne réitère finalement. Voilà, je ne vais pas... Voilà.
Oui, j'avais pensé à rajouter aussi le retentissement que ça peut avoir en fait, parce que cette question de normalisation qui peut être parfois culturelle, si... il n'y a pas de retentissement sur l'enfant ou même sur la personne concernée, que ça ne vient pas altérer son quotidien de vie, amener des angoisses, des choses qui peuvent être invalidantes au quotidien. Peut-être que ça aussi, c'est une limite qu'on peut respecter tout en rappelant quand même la loi et peut-être soulevant le fait que ce n'est pas forcément adapté et toléré en France. Mais qu'on peut tolérer que ça le soit pour certains en fait. Enfin, c'est un peu délicat finalement comme questionnement et comme réponse puisque c'est assez large. Mais je pense que là, toutes les réponses qu'on a pu donner complètent.
Pour ajouter, je pense qu'il y a aussi la question de la réalité psychique du patient, parce qu'effectivement, quelqu'un qui vient en UMJ est déjà dans une démarche de dépôt de plainte, etc. Donc, ce n'est pas la même chose que d'un point de vue clinique dans le cabinet. Quelqu'un, parfois, ou qui va raconter des violences, où on va se dire « Waouh, c'est impressionnant, c'est énorme, il faut faire quelque chose. » Ou pour la victime, en fait, finalement, ce n'est pas aussi impactant ou effractant que ce que ça peut l'être pour le thérapeute.
Un point intéressant que je pense important aussi à préciser, c'est qu'effectivement, dans la prévention des violences, il y a évidemment l'idée de la prise en charge, l'accompagnement des victimes pour les aider aussi à se reconstruire suite à des événements de violence. Le fait aussi d'accompagner les auteurs dans la prise de conscience dans des violences, différentes violences qu'ils ont commises, un problème auquel se retrouvent confrontés les professionnels. Alors, j'aurais pas besoin de développer là-dessus, les cliniciennes ont très bien développé à ce sujet, mais aussi dans la prévention des violences, un point qui va être aussi important, c'est la communication, la sensibilisation aussi de la population générale, de l'environnement, l'environnement social, l'entourage immédiat, des auteurs, des victimes, qui évidemment constituent un levier pour ensuite accompagner les auteurs dans la recherche d'aide, les victimes aussi dans la recherche d'aide, et favoriser, alors ce que une chercheuse, une sociologue, Moine Delaunay, qui s'est intéressée justement à la question de la représentation que les auteurs ont des violences qu'ils commettent, et souvent un point qui est évoqué, donc, elle s'est retrouvée avec beaucoup d'auteurs qui n'avaient pas conscience ou avaient tendance à minimiser, se déresponsabiliser, se dédouaner des violences commises. Et un point qui était central dans tout ça, c'était aussi l'absence de, on va dire l'absence de réaction de l'entourage, mais les auteurs percevaient une minimisation de leurs actes ou une banalisation de leurs actes violents par leur entourage. Donc un axe de prévention aussi central, ça va être sur la population en général qui peut être avec toutes les personnes ressources qui peuvent accompagner les auteurs et victimes.
Pour les auteurs, vous avez les CPCA, Centre de prise en charge pour les auteurs, qui font un travail remarquable de 4 mois à peu près. C'est des groupes de parole à destination des auteurs. Ils peuvent y aller de façon volontaire ou en pré- ou post-sententiel. Et où, du coup, justement, on vient casser avec eux les stéréotypes, etc., la notion de violence, le psychotrauma. Enfin, on fait de la psychoéducation, en fait, auprès d'eux. Alors, ils font des recherches en interne. C'est dommage parce que ça ne sort pas. Mais sur la question de la récidive et dans plusieurs CPCA, ce qu'ils ont pu voir, en tout cas, c'est que, du coup, à la fin, en fait, des prises en charge des auteurs, même si parfois il y avait de la récidive, ce n'étaient pas les mêmes formes de violence. Elles étaient moins graves d'un point de vue pénal. On changeait en tout cas de modalité de communication violente. Mais les CPCA, vous en avez dans chaque région.
Je vois qu'il y a une main qui se lève, j'arrive.
Merci, bonjour. J'hésitais parce que je suis un peu haut. Je m'appelle Karine Canel, je suis infirmière et je travaille à mi-temps. Je suis chargée de faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle dans une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Je rebondis sur ce que vous disiez. Je pense que le premier endroit où on devrait faire de la prévention, c'est à l'école. Et comme le dit la loi, 3 séances par an depuis la primaire, la maternelle, ça, on adapte au public. Là, on peut parler du corps, comment mieux se connaître, comment connaître ses limites, ses besoins, ses limites, les bons touchés, les bonnes relations, le consentement, tout ça, on pourrait le faire super tôt. C'est pas beaucoup fait. Moi, j'ai appelé le rectorat là, pour savoir comment c'était fait. On m'a dit que les profs étaient bien formés, que les instits aussi. J'ai beaucoup de copains profs et instits. Ils ne disent pas la même chose et des fois, ils sont bien en galère pour assurer le taf. Je rebondis aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les cultures plus tolérantes par rapport à la violence. Moi, je n'avais pas entendu ça je ne pense pas... Enfin, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de pays où on tolère plus. En tout cas, la loi française, pour moi... je pensais qu'on parlait de culture familiale, peut-être, ou culture... en France, ce n'est pas la peine d'aller chercher à Pétaouchnok. La violence, elle est bien en France aussi et dans tous les milieux. Voilà. En tout cas, moi, j'espère qu'il va y avoir de l'éducation à la vie affective et sexuelle plus qu'il y en a. Et voilà. Et comme ça, on pourra apprendre ce que c'est que la violence, comment se protéger et comment ouvrir la parole aux enfants victimes de violence, pour les enfants victimes de violence.
Il y a beaucoup de freins autour de ça, mais je pense que les freins, ils viennent aussi de notre part à nous, parents, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Je pense aux violences sexuelles, par exemple. Moi, quand j'étais au lycée, on ne m'a pas parlé de violences sexuelles. Ça fait longtemps que j'étais au lycée, et pourtant, il y en a. Mais en même temps, dans le cadre des violences sexuelles, beaucoup de situations, le danger vient de l'intérieur, vient de l'environnement familial, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de freins. Et c'est un peu comme les groupes de parole sur le suicide. Quand je travaillais en police, on faisait des groupes de parole suicide. On avait toujours peur qu'après nos passages, il y ait des suicides de masse, après le passage du psy qui parle de ça. Donc après, est-ce qu'ils n'ont pas peur aussi qu'on puisse parler de ça et que ça puisse mettre à mal, ou le fait qu'il puisse y avoir des révélations, comme tu le disais tout à l'heure, qu'après des groupes ou quelque chose comme ça, il puisse y avoir des personnes qui disent « tiens, moi, il m'est arrivé quelque chose » et on en fait quoi ? On fait une IP, un signalement, et puis on les prend en charge, mais c'est peut-être ça aussi le frein.
Les discriminations, les stéréotypes de genre aussi, les discriminations de genre. Enfin, si on dit ça dès le collège au moins, peut-être qu'on n'en serait pas là. Parce que du coup, là, à dire, j'ai une connerie sexiste ou pas.
Ne serait-ce que les jouets sont genrés.
Ben oui, ça dépend, moi, ça dépend où on va, enfin ce qu'on achète, tout ça. Moi j'ai pu créer les salles, déjà, c'est pas mal.
Après, il y a certains CIDFF hein, qui font ça, qui font ces actions de prévention sur les stéréotypes sexistes et tout ça, qui le font au lycée.
Apparemment, c'est parce que les gens sont formés, l'infirmière est formée, l'infirmière scolaire est formée, les psychologues, les CPE, on m'a dit, et les instituts. Et ben, je ne crois pas trop, mais il y a plein d'effets d'annonce, par contre.
Je me permets de rebondir. Quand j'étais encore en poste dans l'éducation nationale, merci. Les enseignants, justement, donc ça c'était l'année scolaire dernière. En début d'année scolaire, ils ont été informés qu'ils devaient intervenir sur l'éducation à la sexualité auprès des enfants du CP au CM2. Donc c'était un peu paniqué parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Donc là, ils se sont tournés vers moi, et notamment pour aborder les notions de consentement, d'intimité et d'introduire la sexualité avec les pré-ados, finalement. Et clairement, non. Alors, pour moi, ce que j'en ai vu et ce que j'en ai su, il n'y a pas eu de formation aux enseignants. Et donc, là, ce qu'on a fait, c'est que je leur ai proposé de partir des questions des enfants, de leur dire, voilà, on va aborder tel sujet. Quelles questions vous avez? Et nous, on va répondre à vos questions. Parce qu'ils avaient peur d'être trop intrusifs sur le sujet, de donner des informations que les enfants n'étaient pas prêts à recevoir ou des informations que les enfants ne voulaient pas avoir. Et donc, je pense que de partir de leur questionnement de base, ça permet déjà d'introduire le sujet et de pouvoir répondre à leurs questions et de leur laisser la possibilité de questionner davantage. On n'a pas eu de parents qui se sont opposés à ça. Heureusement, je ne sais pas comment on aurait pu réagir. Est-ce qu'on aurait... écarter un élève de ça. Je ne sais pas du tout comment on aurait pu réagir sur le moment. Mais du moins, personne ne nous a posé de questions, personne ne s'est interposé. Et ça s'est très bien passé. Et les enfants étaient très contents, très, oui, très preneurs. Et puis surtout.
Il faut communiquer, en fait. C'est comme tout, il faut communiquer. Ouais, c'est ça. On apprend à marcher, à être propre, à manger. Pourquoi pas apprendre la relation? Pourquoi pas apprendre à se protéger?
Exactement, mais c'est aussi, ça part aussi des stéréotypes et des idées préconçues qu'on a. Et donc, on va forcément se dire, ah ben non, on ne peut pas leur parler de ça, on ne peut pas employer le terme de pénis, on ne peut pas employer tous ces termes-là avec les enfants et parler de sexualité à 9-10 ans, alors que si, en fait. Alors,
La vulve, il y a plein de gens qui emploient la vulve à tout bout de champ.
Et excusez-moi, l'échange est intéressant, mais en fait, quand vous parlez, les gens sur Zoom n'entendent pas. Du coup, ça coupe un petit peu et je pense qu'on va passer à d'autres questions, si ça ne vous dérange pas. Mais merci beaucoup.
Bonjour, donc Jessica Amand, je suis enseignante chercheuse ici en psychologie sociale et je travaille pas mal sur les stéréotypes. Et dans ce cadre-là, mais ça va un peu dans le sens de ce que disait la dame qu'on n'entend pas très bien dans le fond, je pense que les stéréotypes de genre, si on commençait à les travailler avec dans la formation de psychologie, ça pourrait être tout à fait intéressant et stimulant peut-être pour certains et pour certaines, pour plein de collègues notamment. Et donc, tout ça pour vous dire que ça bouge aussi un petit peu à l'université. Il y a une UE genre, par exemple, qui a été créée il y a 2 ans ici, qui n'a pas été proposée dans tous les UFR, les UFR qui n'ont même pas consulté leurs collègues pour savoir si c'était intégré ou pas, mais en tout cas, ça existe. Et dans le cadre de cette UE, il y a des sociologues, il y a des juristes, il y a des économistes, il y a un peu de psychologie, où justement, c'est de la psychologie sociale, où on essaie de former et d'initier sur les processus liés aux stéréotypes pour raisonner, alors à plus appliquer aux gens, mais en tout cas, ça existe. Donc ça, c'était la première chose, de dire que peut-être avant d'aller discuter des stéréotypes de genre chez les autres, on peut en discuter en psycho et parmi les collègues et vous, en tant que future personne accompagnant des femmes et des hommes qui connaissent ces stéréotypes-là. Et l'autre chose, sur le côté la culture française et les autres cultures où peut-être on est plus tolérant, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a un article de Mediapart là-dessus. Il y avait une définition du viol au niveau juridique européen qui était proposée il y a quelques semaines et la France fait partie de ceux avec la Hongrie qui l'ont refusée. Donc, c'est pour vous dire que quand on discute de la tolérance ou de la définition du viol, parce que alors il y a des juristes dans la salle, si j'ai bien compris, mais la définition juridique du viol en France pose beaucoup de problèmes, mais surtout aux victimes plus qu'aux auteurs, en tout cas.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour, Franck Ardouin, donc je travaille en milieu carcéral. J'avais une question pour Feriel, que je connais, mais il y a longtemps, je pense.
C'est vu quand je cherchais un stage en licence, il y a longtemps.
D'accord. OK. Non, moi, j'aurais été intéressé. Ben, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment une question d'ordre général, mais j'ai plein de choses à dire. Donc, je vais poser une seule question. Est-ce que tu peux développer un tout petit peu le concept que je ne connais pas, je ne sais pas si d'autres connaissent, colonisation psychique, parce que ça m'a parlé, mais je ne connaissais pas le terme, en fait.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mémoiretraumatique.org. C'est le docteur Salmona en fait, qui parle de l'emprise comme étant un processus en fait, de colonisation psychique, un peu comme si l'auteur en fait, allait être complètement omnipotent dans la tête de la victime. Par exemple, c'est un peu comme s'il tissait une toile d'araignée autour d'elle et qu'elle était au centre. Là, vous voyez, si je suis pas sous emprise, là. Je sais qu'il y a une porte ici, si je veux sortir, je me lève, je vais clencher la porte, etc. Il n'y a pas de difficulté. Si vous me mettez sous emprise et que je suis, vous êtes omnipotent, monsieur Ardouin, dans ma tête et qu'il y a plein de petits Franck dans ma tête, bah, je vais avoir l'impression que je ne suis pas du tout en capacité de faire ces actions-là. Après, sur le site de mémoiretraumatique.org, le docteur Salmona, alors parfois, elle est un peu controversée parce qu'elle parle effectivement de la dissociation traumatique, de la sidération psychique, etc. Et parfois, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec elle, mais d'un point de vue clinique, c'est vrai que quand on parle aux victimes, quand je leur donne l'exemple de bah, « il y a plein de petits auteurs dans votre tête et finalement, vous pensez d'abord à ce que lui aimerait que vous fassiez ou à comment il aimerait que je m'habille, etc. Et » bah, ça parle quand même beaucoup. Alors là, je n'ai pas de données scientifiques, mais pour le coup, ça parle beaucoup aux victimes. Mais sur mémoiretraumatique.org, vous avez plein d'infos. Il y a d'ailleurs un manuel qui est gratuit, qui est à destination pour la prévention des enfants de 6-11 ans qui sont en plusieurs langues, que mémoiretraumatique.org vous envoie gratuitement. Vous juste envoyez votre adresse postale et il vous envoie plusieurs petits livrets qui sont illustrés, en fait, pour permettre justement de voir qu'est-ce qui se passe, en fait, après un événement violent, si je suis victime de violence conjugale, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et tout ça expliqué dedans. Voilà. J'espère que je vous ai répondu.
Merci beaucoup. On a une dernière question et après, je pense qu'on pourra conclure sur le rôle que peut jouer le psychologue dans un procès qui traite de violence conjugale.
Alors, ce qui est important de savoir, donc c'est, je ne vais pas faire un gros détour sur les aspects juridiques, mais les psychologues, donc, peut-être il y en a qui sont amenés en cours d'appel à témoigner en qualité d'expert. Donc, les psychologues peuvent être amenés à intervenir dans le cadre de procès pénal, que ce soit en cours d'appel dans le cadre d'expertise auprès d'accusés, mais également pour établir des comptes rendus sur l'état psychologique des victimes, sur les conséquences d'un événement traumatique, mais également, donc, en tout cas en ce qui concerne les accusés au pénal, les psychologues sont amenés à intervenir pour rendre des expertises, je le disais, sur à la fois la personnalité de l'accusé, le discernement qu'il avait ou non au moment des faits, et sur les éventuels troubles qui pouvaient être présents au moment des faits ou après. Et ça, ce n'est pas un point anecdotique, parce que c'est le psychologue a une expertise en tant que professionnel lorsqu'il vient rendre ses conclusions à la barre devant à la fois les magistrats, mais aussi en cour d'assises, donc surtout dans les affaires de nature criminelle, à la fois devant les magistrats et les jurés. Et son discours va avoir une légitimité, un poids qui va avoir un impact sur les conclusions, sur le verdict de la cour, donc le verdict de culpabilité, mais aussi sur les sanctions qui vont en découler. Ce qu'on voit souvent lorsqu'on lit, quand on s'intéresse justement à la manière dont les verdicts vont être motivés, on a souvent les éléments d'expertise, on a l'idée que les faits dont est accusé l'auteur vont être compatibles ou non avec la personnalité. Mais on a aussi le fait que souvent les éléments d'expertise vont être déterminants derrière dans la peine qui va en résulter, dans la manière dont les jurés, les magistrats vont apprécier la dangerosité des auteurs, leur risque de récidive et les mesures qui conviennent de prononcer à leur encontre.
Après, il y a aussi des réquisitions qui sont régulièrement faites, en tout cas sur le parquet de l'Eure, quand il y a une situation de violence conjugale, un dépôt de plainte de façon quasi systématique. En fait, le parquet demande, fait une réquisition auprès d'un psy qui soit compétent ou pas d'ailleurs, formé ou pas sur la question des violences conjugales, pour faire une espèce de photo à un instant T et voir si les déclarations de la victime, en gros... Je fais gaffe aux mots que j'utilise, mais en tout cas, si ça peut correspondre avec son état. Après, au niveau des UMJ, je pense que tu peux en parler mieux sur les ITT.
Effectivement, en fait, à l'unité médico-judiciaire de Caen, de Cherbourg et de Saint-Lô, parce que ce n'est pas encore en place partout, il y a ce que l'on appelle des expertises médico-psychologiques. Donc, c'est en binôme psychologue et médecin légiste. Et on va, en fait, évaluer le retentissement psychologique qu'ont eu les faits, donc qu'ont eu... souvent les faits de violence conjugale. Et le médecin légiste va déterminer une ITT. Et l'ITT, en fait, elle est là pour faire une photographie de comment va la personne suite aux faits. Et l'ITT, en fait, c'est vraiment une notion pénale qui va vraiment avoir un impact ensuite sur la suite de l'enquête, en fait. Ça va soit passer, ça peut passer, en fait, en délictuel, etc., etc. Et ça peut avoir un impact un peu plus important sur l'auteur. Donc ça, c'est finalement le premier positionnement du psy dans le cadre d'un procès en qualité d'expert. Mais il peut aussi être appelé en qualité de témoin dans le cadre d'un suivi. Enfin, moi, j'ai déjà été convoquée. Alors, c'est toute la difficulté aussi de qu'est-ce que l'on fait, en fait, des informations que le patient nous a données en suivi et qu'est-ce que l'on dit aux gendarmes, en fait, dans le cadre de l'audition, sachant qu'on n'a pas le droit de refuser une convocation judiciaire. On est obligé de se présenter devant le gendarme. Mais qu'est-ce qu'on fait du secret professionnel pour l'enquête. Enfin, en fait, c'est le deuxième positionnement que peut avoir le psychologue. Et le troisième, c'est aussi, je sais qu'il y a des psychologues qui accompagnent leurs patients jusqu'au procès. Voilà, après, ça, je pense que c'est en fonction de son cadre, de son cadre interne et de comment on a envie de se situer finalement avec notre patient. Voilà, donc je dirais qu'il y a vraiment trois places de psy, l'expert, le témoin et puis le thérapeute.
On vous remercie beaucoup pour toutes vos questions. On remercie les professionnels pour leurs réponses. Je vous invite à regagner vos places, s'il vous plaît, et nous allons conclure.
Et on peut remercier aussi les étudiants du master de leur organisation.
Est-ce que vous m'entendez bien, du coup? Donc, en conclusion de cet après-midi riche en enseignements, ensemble, nous avons plongé au cœur des mécanismes sous-jacents au passage à l'acte, explorant les nombreuses facettes de ce phénomène douloureux. Madame Ferriel...
On ne m'entend pas du tout.
Bon, je ne vais pas reprendre, mais du coup, c'est pour résumer un peu les interventions des intervenants de cet après-midi. Donc, Madame Ferriel, Wesh nous a... offert des perspectives cruciales sur les processus et dynamiques qui sous-tendent les violences conjugales. Sa présentation a offert une vision complète, mettant en lumière les interactions complexes des relations des auteurs entre les auteurs et les victimes. Les psychologues Célia Ametskou et Laurine Houillon ont mis en évidence les risques que l'exposition aux violences conjugales représente pour le développement de l'enfant. Leur témoignage a souligné l'urgence pour... Voilà. Leur témoignage a souligné l'urgence d'une prise en charge adaptée pour atténuer les conséquences sur les plus vulnérables de notre société. Noémie Dujardin, spécialiste en psychologie de l'éducation, a évoqué les signes d'alerte et les actions possibles à mettre en place auprès des enfants victimes. Son intervention a mis en relief l'importance d'une collaboration étroite entre l'école, les professeurs, les professionnels de la santé pour prévenir et intervenir efficacement auprès des enfants. Monsieur Christian Jolial, expert en neuropsychologie, a apporté une perspective unique en analysant le fonctionnement cognitif des auteurs d'agressions sexuelles. Ses recherches approfondies ont élargi notre compréhension des facteurs neuropsychologiques contribuant à de tels actes et comportements. Enfin, les doctorants Sacha Azoulay et Charlotte Baron ont exploré les rôles des philosophies pénales, des représentations sociales et des responsabilités pénales et de sanctions liées aux violences conjugales. Leur intervention a souligné la nécessité d'une approche holistique, pour aborder ces questions complexes.
Donc, nous voulions rajouter que diverses ressources d'aide et d'information sont disponibles et spécifiquement dédiées aux victimes de violences conjugales, à savoir le violentomètre, par exemple, qui permet d'évaluer et de sensibiliser aux différentes formes de violence grâce à une échelle graduée, qui permet du coup la reconnaissance et la mesure du comportement violent. Il existe aussi le site Stop Violence Conjugale Normandie, qui est spécialement conçu pour les professionnels qui veuillent orienter rapidement les victimes de violences conjugales vers des structures adaptées. Et enfin, dernier exemple, il existe le site gouvernemental français Arrêtons les violences, qui propose des informations essentielles pour les victimes, les témoins et les professionnels. Donc, ce site va guider les témoins dans la manière de réagir et fournir aux professionnels des rôles clés, des informations sur les différentes formes de violence et des outils utiles. Et à l'échelle du coup nationale, pour les victimes de violences conjugales, le site va permettre de trouver à proximité des associations de lutte et de prévention contre les différentes formes de violence. Donc finalement, ce séminaire a été une véritable plongée dans la diversité des perspectives et des disciplines convergentes vers la compréhension des violences conjugales. Il rappelle l'importance d'une collaboration interdisciplinaire pour élaborer des solutions globales.
Donc, nous tenons vraiment à remercier sincèrement donc, nos intervenants pour avoir fait le déplacement et pour nous avoir expliqué leur thème et leur domaine d'expertise. Nous remercions également nos sponsors pour leur dévouement et leur soutien envers cette cause essentielle qui nous tient à cœur. Nous remercions également Madame Molina Michel ainsi que Madame Corbel Aya pour leur suivi et leur aide indéfectible dans cette organisation de ce séminaire. Une version enregistrée de ce séminaire sera accessible sur le site unicamp.fr dans la rubrique du coup de l'UFR de psychologie au cours de l'année 2024 du coup pour ceux qui désirent compléter leurs notes. Nous exprimons également notre gratitude du coup à monsieur Guban Thierry pour cet enregistrement. Chacun de nous du coup porte une responsabilité de contribuer à notre échelle à la prévention et à la lutte contre les violences conjugales. Donc nous vous remercions également pour votre attention ainsi que votre participation à ce séminaire. Bonne fin de journée à vous.